Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous nous intéressons à deux grands secteurs économiques dans le continent. Il s'agit d'abord de l'agriculture. Le Maroc accueille depuis jeudi la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique, l'occasion de mettre le focus sur l'évolution de l'agriculture africaine et les défis liés à la souveraineté alimentaire. Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, nous en parlons longuement dans les échos de la semaine. L'autre grand sujet de cette semaine porte sur le secteur des télécoms. Quelles sont ses tendances actuelles? Notre invité en parlera. Il s'agit de Germain Brognon. Il est le directeur général de Titan Conseil International. Vous l'entendrez dans quelques minutes. Quels sont les principaux sujets de votre émission? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, le Maroc accueille depuis jeudi la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Cet événement se clôture ce week-end. Il y a été question de coopération sud-sud dans le domaine agricole avec la participation de 54 délégations africaines conduites par une quarantaine de ministres en présence du directeur général de la FAO. Il faut noter que le Maroc assurera la présence de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique pendant les deux prochaines années. Et c'est l'occasion de faire le point sur l'évolution du secteur agricole en Afrique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'économiste Elkitenge Lubanda qui est en contact avec nous depuis Kinshasa. Bonjour et bienvenue à vous, Elkitenge Lubanda. Alors, première question, comment va l'agriculture africaine?
L'agriculture africaine prend conscience de son rôle. L'agriculture africaine devient de plus en plus intelligente. Elle prend des ambitions. On a le cas du Zimbabwe qui a gagné la bataille contre le blé, devenu autosuffisant, et le Sénégal est en train de prendre des décisions quant à ceux. Le Cameroun est en train de discuter de l'import-substitution, essentiellement sur les questions agricoles. Et la RDC a fini sa stratégie de faire de l'agriculture sur toute la chaîne des valeurs un business. Ça sous-entend qu'en fait, l'agriculture qui était complètement absente, mais c'était le fait de la colonisation, est en train de se réveiller pour se donner les moyens de pouvoir investir, s'industrialiser, mais surtout prendre possession de toute la chaîne.
Quels sont les principaux enjeux actuels de cette agriculture africaine, Elkitenge Lubanda?
Les enjeux actuels sont des enjeux de commerce. Aujourd'hui, les supermarchés qui se déploient le continent sont des supermarchés entonnoirs destinés à recevoir et à écouler des biens produits à l'extérieur. Aussi bien à l'époque, c'était des supermarchés français et européens. Aujourd'hui, ça commence à être des supermarchés chinois et indiens. L'objectif, c'est de prendre possession du terrain pour être en mesure d'y écouler des biens produits ailleurs. Et le continent prend conscience du fait qu'il faudrait qu'il déploie des supermarchés modernes capables d'attirer, dans le cadre d'une logistique organisée, des biens qui viennent de la fourche à la fourchette en passant par de la transformation. D'où toute la question de l'intelligence qui est liée aux technologies, mais surtout aux équipements et à la modernisation de l'organisation agricole.
Ce sont des enjeux intéressants. Alors, enfin, qu'en est-il des objectifs que cette agriculture, en tout cas, a été fixée, ou plutôt que la plupart des États ont fixé ces dernières années, à savoir l'autosuffisance alimentaire? Où est-ce qu'on en est?
Non, l'Afrique a dépassé l'ambition de l'autosuffisance. Nous voulons une ambition beaucoup plus grande, celle de la souveraineté alimentaire. La souveraineté nous donne la position de pouvoir faire du business agricole, le business alimentaire, pour être en mesure à la fois de nourrir le pays, le continent, mais également nourrir le monde, parce que nous avons une ambition naturelle, c'est celle du détenteur des terres agricoles plus viables que celles des autres continents en termes de nombre de personnes, mais également la possibilité de pouvoir mettre à contribution les contraintes climatiques qui imposent un certain nombre de règles et qui rendent certains territoires assez difficiles à exploiter sans une production chimiquement motivée, ce dont on connaît les conséquences négatives. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un moment donné où elle peut jouer un rôle extrêmement important pour donner de la nourriture à ses propres enfants, mais également aux enfants du monde et de la nourriture de qualité. La science est du côté de l'Afrique, l'intelligence est du côté de l'Afrique. Ça sous-entend qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'autosuffisance ne suffira pas. Nous allons aller dans une gouvernance économique viable, mais ça demande que nous ayons non seulement des bonnes discussions sur le continent, mais également énormément d'échanges d'expériences et l'ouverture du marché continental pour avoir des échanges entre nous.
Merci à vous, Elkitenge Lubanda. Je rappelle que vous êtes économiste. Vous nous parliez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo en Afrique centrale et de l'Afrique centrale. Nous mettons le cap sur le Sahel. Le Sahel, un espace où les températures sont habituellement élevées, mais qui vient de vivre une vague de chaleur encore plus ardente et qui a entraîné des victimes dans pas mal de pays de la région. Cette vague de chaleur meurtrière qui a frappé cette région tampon entre le Sahara et l'Afrique tropicale début avril dernier est liée au changement climatique d'origine humaine, selon les scientifiques du réseau World Weather Attribution, qui l'ont fait savoir dans une étude qui vient de paraître, ce qui n'est pas sans impact donc sur l'agriculture. Justement, à quoi faut-il s'attendre pour les mois à venir? Écoutons les explications de Katsielu Gaptia-Lawan. Il est le directeur général du Centre nigérien de la météorologie. Je vous propose de l'écouter.
Pour les prévisions de la saison entière, ça veut dire mars, avril, mai, et beaucoup de modèles qu'on a vus, et donc selon nos perspectives et nos prévisions, les températures sont prévues être au-dessus de la moyenne pour cette saison également, en 2024. Donc il est fort possible, effectivement, que nous assistions à des séquences caniculaires ou des vagues de chaleur qui peuvent encore arriver pendant le cours de la saison, n'est-ce pas, qui va aller jusqu'à mai, début juin. C'est effectivement tout à fait possible que nous rencontrions ce genre de situation encore au cours de la saison. Et cette chaleur-là, et surtout quand l'humidité va rentrer, quand la mousson sera présente, va être encore beaucoup plus corsée que ce qu'on a actuellement. Et donc, il est important que les gens prennent des dispositions pour se protéger, surtout pour ceux qui travaillent à l'air libre.
Selon les scientifiques du réseau World Weather Attribution, toujours, la raréfaction des points d'eau et des pâturages est accentuée par le développement des terres agricoles, et cela a bouleversé l'existence des populations pastorales dans cette région du Sahel.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Germain Brognon, il est le directeur général de Titan Conseil International, et avec lui, nous allons parler d'un secteur vital de l'économie africaine. Il s'agit des télécoms. Bonjour à vous, Germain Brognon, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar et merci de m'avoir invité.
Alors, qui dit secteur des télécoms pense à ce secteur désormais incontournable hein, dans l'économie de tous les pays du monde et notamment sur le continent. Alors, comment va le secteur des télécoms en Afrique, Germain Brognon?
Alors, le secteur des télécommunications en Afrique est dans une phase de développement important et va continuer à se développer dans les prochaines années, quoi. Pour donner un ordre d'idée, le taux d'adoption des smartphones en Afrique subsaharienne devrait atteindre 88% en 2030, contre un peu plus de 50% en 2023 selon le GSMA. Et ce développement va se faire sur plusieurs plans. Tout d'abord, il y a le développement de l'infrastructure. De nombreux pays africains investissent dans le développement des réseaux pour relever les principaux défis, et notamment la généralisation de la couverture 4G. En Afrique subsaharienne, donc la 4G est passée d'une couverture de 27% du territoire en 2018 à 65% en 2023, donc ce qui représente 100 millions de nouveaux utilisateurs potentiels. Il y a également le développement donc, du FTTH qui permet de raccorder les logements en fibre optique, le développement des backbones nationaux en fibre optique, indispensable pour permettre de connecter les villes entre elles et de sécuriser le trafic. Et de nombreux projets sont en cours, financés par les bailleurs internationaux pour la couverture des zones rurales, jusqu'à aujourd'hui mal desservies, et la connexion des établissements de l'administration et notamment les sites de l'éducation et de la santé. D'ici à 2030, 100 milliards de dollars devront être investis dans les infrastructures numériques en Afrique afin d'absorber la demande en trafic Internet des près de 700 millions d'utilisateurs attendus, selon les estimations de la Banque mondiale. Je voulais juste rajouter que malgré ces avancées, donc des défis persistent, notamment il existe toujours des disparités d'accessibilité entre les zones urbaines et rurales, ainsi qu'entre les pays, et que les coûts des services de télécommunication restent élevés pour de nombreuses personnes, ce qui limite l'accessibilité pour les populations à faible revenu.
En tout cas, c'est important et je retiendrai ce chiffre quand même. Assez éloquent, c'est 67% de taux de couverture Internet hein, en 2023 contre 27% en 2018. Je pense que quand même, le bond est considérablement intéressant. Alors, cela dit, en termes disons, parlons des opérateurs, qui sont aujourd'hui les grands opérateurs du secteur des télécommunications sur le continent, Germain Brognon?
Alors aujourd'hui, les grands acteurs, ce sont, alors en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, le groupe, bien sûr, Maroc Télécom, qui, avec sa marque Move Africa, réunit depuis 2021 ses 10 filiales subsahariennes. Orange, présent dans 18 pays. Le groupe sud-africain MTN, donc, qui possède 16 filiales en Afrique, dont 9 en Afrique de l'Ouest. Airtel Africa, donc la filiale de l'entreprise indienne Bharti, donc, qui est présente dans 14 pays d'Afrique. Et le groupe Axian, le groupe malgache, qui opère, lui, dans 8 pays. Ce sont vraiment les principaux acteurs en Afrique subsaharienne, les autres entités étant plutôt des opérateurs étatiques ou plus ou moins indépendants.
Alors, je vous entends parler de Maroc Télécom. Justement, parlez-nous de l'évolution des activités de Maroc Télécom sur le continent, Germain Brognon.
Alors, donc Maroc Télécom, ils ont réalisé l'année dernière… donc, de bonnes performances. Il faut dire que le secteur est porteur. Aujourd'hui, on voit les tailles de marché qui augmentent du fait, bien sûr, de la démographie en Afrique, où il y a de plus en plus donc, de consommateurs. La croissance économique également, donc, qui a augmenté le pouvoir d'achat des ménages. Donc, dans ce cadre-là, Maroc Télécom, lui, il a retrouvé la croissance l'année dernière, notamment grâce à ses filiales en Afrique subsaharienne, donc, qui permettent de porter la performance du groupe. Donc, il a eu une augmentation de son chiffre d'affaires de 3%, donc porté, comme je viens de le dire, par ses filiales africaines et également par les activités de l'Internet fixe, donc le FTTH au Maroc, qui connaît une croissance importante et qui permet de compenser la baisse des revenus du mobile.
Alors, cela dit, quelles sont les perspectives d'évolution de façon générale, de ce secteur des télécommunications? Vous avez évoqué les défis tout à l'heure, on va y revenir, mais par rapport aux perspectives d'évolution, comment se dessine-t-elle? Sommes-nous toujours sur cette tendance où on sent que tout le monde verse sur les données mobiles? En termes d'innovation, qu'est-ce qui s'annonce?
Alors, effectivement, donc, les revenus liés à la voix sont en baisse, mais elles sont compensées par les revenus de la data. Et aujourd'hui, du mobile money, donc la data immobile et le mobile money, ce sont donc les deux points qui tirent le secteur. Avec la généralisation de la data et l'essor des smartphones abordables, on a vu arriver l'émergence des fameux services financiers digitaux, tels que le paiement mobile, le mobile money, le transfert d'argent, donc qui sont indispensables pour le commerce électronique.
Alors, qu'en est-il des défis que ce secteur doit relever aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, les défis, comme je l'ai évoqué, il faut combler les disparités d'accessibilité entre les différentes zones urbaines et rurales et entre les pays. Il faut réussir à faire baisser les coûts des services pour que l'ensemble des populations puissent avoir accès à ces services. On connaît des services, donc tout ce qui est e-gouvernement, donc ce qui permet de pouvoir faire des demandes administratives en ligne. Et un défi également très important, c'est lié aux politiques réglementaires, le cadre législatif et fiscal, qui dans certains pays peuvent constituer des obstacles à l'expansion et à l'innovation dans le secteur des télécommunications.
Ce sont des éléments importants. Alors, tout ceci nous montre aujourd'hui le rôle incontournable, primordial que joue ce secteur des télécoms. On s'en est rendu compte récemment lors de cette panne donc, au niveau des câbles. Hein, lorsque des câbles sous-marins ont été perturbés, on a vu comment cela aussi a freiné l'activité économique dans de nombreux pays du continent. Alors vous, en tant qu'acteur, si vous aviez davantage aujourd'hui à mettre le focus sur les moteurs de la croissance de ce secteur-là. Quels sont ces moteurs?
Alors, les moteurs de la croissance, donc tout d'abord, l'Afrique étant un continent en plein développement, ils sont d'abord liés à la demande. Donc, on le voit, il y a plus en plus de consommateurs, une croissance économique. Donc, tout ça, ce sont des moteurs pour la demande pour le secteur des télécommunications. Et on le voit avec l'essor de smartphones qui sont aussi aujourd'hui abordables. Donc, avant, les personnes ne pouvaient pas forcément se les payer, avoir accès à l'Internet mobile. Aujourd'hui, ces personnes continuent à pouvoir avoir accès à ces services de plus en plus et peuvent utiliser donc, tous les services de la data, notamment ces nouveaux services financiers digitaux qui permettent d'utiliser donc, ce commerce électronique. Et ces services digitaux donc, qui permettent également de pouvoir utiliser les e-services de l'administration qui sont aujourd'hui en plein développement.
En tout cas, c'est intéressant à noter. Merci à vous, Germain Brognon. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Titan Conseil International. Vous nous faisiez le point sur l'évolution du secteur des télécommunications sur le continent. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci, Omar. À bientôt.
À bientôt.
Destination Éco.
Et nous mettons le cap sur l'Afrique centrale et australe pour parler de ce mémorandum d'entente signé par plusieurs acteurs internationaux, dont la Banque africaine de développement. L'objectif est de réaliser le corridor de Lobito. Il s'agit d'un tracé ferroviaire et routier censé relier l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Ce projet comprend 500 km de voies ferrées et 260 km de routes. Le corridor de Lobito intéresse particulièrement les Américains et les Européens qui voient moins de concurrencer les projets chinois en Afrique. Écoutons l'analyse de Henri Nzouzi, spécialiste de l'Afrique.
Le corridor de Lobito, combiné à la ligne ferroviaire Zambie-Lobito, s'étendra du sud au centre de l'Afrique, traversant ainsi la Zambie, l'Angola et la République démocratique du Congo. Une fois achevé, ce projet renforcera un couloir économique reliant ces nations à des marchés mondiaux. L'objectif étant de favoriser la prospérité régionale et le commerce en mettant en avant une vision commune d'un train en accès libre reliant l'océan Atlantique à l'océan Indien. Au cœur de cette initiative, on retrouve trois pays africains majeurs, à savoir la Zambie, la République démocratique du Congo et l'Angola, qui ont signé un protocole d'accord en juillet dernier pour relancer ce corridor qui pourrait devenir le moyen le plus rapide et le plus court d'accéder aux ports depuis les principales zones minières. À ce propos, un consortium dirigé par le trader multinational des matières premières, Trafigura, pilotera ce projet ferroviaire de plusieurs milliards. Du point de vue des États-Unis, cet accord traduit donc leur volonté et celle de ses partenaires de collaborer sur plusieurs secteurs pour libérer le potentiel économique total du corridor. Il est néanmoins intéressant de noter que malgré cette initiative visant à contrecarrer l'influence croissante de la Chine en Afrique, une collaboration sino-américaine semble néanmoins inévitable. Mota Engil, en partie détenue par la China Communication Construction Corporation, a signé un accord pour gérer le corridor de Lobito dans le cadre d'un consortium dirigé par Trafigura. Cette dynamique illustre la complexité et l'interdépendance des investissements et des relations internationales en matière d'infrastructure en Afrique. Enfin, il importe de noter que cette ambition projet de développement est également une réponse à la fameuse Belt and Road Initiative, nouvelle route de la soie, qui est de manière tout à fait opportune une façon de pouvoir contester la présence chinoise sur le continent africain.
Merci à vous, Anine Zouzi, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur les plateformes Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.